Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est encore Fanny pour un très très court audio pour vous livrer quelques petites réflexions autour des maris et du sens que ce terme, ce mot, ce prénom possède. Alors comme je le disais, cette page m'est venue sous le titre de l'acronyme MM et pendant longtemps, j'ai pensé que ça correspondait à Marie-Madeleine, puisque forcément, voilà, ça avait beaucoup de sens avec ce que vous allez voir dans la suite de cette page. Et progressivement, en fait, ça m'est venu que c'était aussi l'acronyme de Marie-Marie, ce qui pourrait être très bizarre d'avoir deux fois le même mot. Et comme toujours, quand il y a des petites choses comme ça qui se présentent et qui comment dire, qui attise la curiosité, parce que voilà, c'est quand même quelque chose de bizarre d'avoir deux prénoms identiques, eh bien j'ai eu envie de creuser et de vous livrer tout ce que j'avais fait comme recherche et toutes les synchronies, les hasards de signification de ce mot que j'ai pu rencontrer lors de ces quelques dernières années de travail avec le féminin. Alors, Marie, Marie, forcément, on pense aux deux Marie. Marie la blanche, Marie la rouge. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo de Bienvenue dans laquelle je parlais de leur opposition et de leur union à la fois, dans le terme, dans la phrase que j'avais reçue pour toute cette classe qui était se repentir pour mieux servir. Et on avait le côté se repentir qui correspondait à Marie-Madeleine, Marie la Rouge, pour mieux servir qui correspondait à Marie la Mère, c'est-à-dire Marie la Blanche. Ces couleurs, donc Marie la Rouge et Marie la Blanche, ne viennent pas de n'importe où. Ce sont des couleurs qui ont été données par de nombreux gnostiques, par des alchimistes, dans l'époque médiévale et un petit peu plus moderne avec Simon le magicien, etc. Et également dans des mythes et légendes comme la quête du Graal. On retrouve toujours ce blanc et ce rouge associés donc avec les maris. Et je pense aussi à la religion cathare, etc., qui parle de ces opposés. Ce sont des mythes et des légendes qui ont été dans l'inconscient de leurs auteurs. Et on peut voir avec notamment la psychologie des profondeurs de Jung à quel point il traite ces deux couleurs hein, qui sont d'une extrême importance à l'époque et de comprendre que ce n'était pas dans leur conscience que ces hommes, ces alchimistes écrivaient, mais que c'était voilà des intuitions qu'ils avaient, mais qu'ils ne pouvaient pas expliquer encore à l'époque. Et Jung interprétera ensuite tout cela avec la conscience et l'inconscience qui n'étaient pas connues du tout à l'époque. Bref, dans cette phrase que je vous ai livrée, se repentir pour mieux servir, c'est comme s'il y avait une union entre le blanc et le rouge de la féminité. Et forcément, quand on est artiste, quand on peint, ça nous fait tout de suite penser l'union de deux couleurs à la création d'une nouvelle nuance. C'est comme si une nouvelle couleur apparaissait, le rose, et donc la rose. Mais si j'ai fait cet audio, c'est pour vous parler du terme Marie. Alors, qu'est-ce que ça signifie au juste? Est-ce un prénom comme un autre? Et on pourrait dire qu'il était super à la mode à l'époque de l'an zéro, que tout le monde appelait leur enfant Marie. Est-ce un hasard si les deux femmes de l'entourage de Jésus, sa mère et sa bien-aimée, s'appelaient ainsi? Et est-ce aussi un hasard de plus hein, si la sœur de Moïse s'appelait Marie-Âme? Commençons par Marie-Âme. Marie-Âme faisait partie des femmes qui avaient un don, une faculté qui était de trouver l'eau. Ce qui, vous en conviendrez avec moi, était plutôt très 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 pratique quand on vivait dans le désert. Trouver l'eau, donc finalement être sourcier, c'était donc dans le désert un acte sacré, un acte révéré, un art en fait sacré, révéré. Et puis l'eau, quand on y pense, c'est un élément du féminin. Il est le symbole des profondeurs de l'inconscient et il est le symbole aussi de la vie fertile. Donc on en revient ainsi aux déesses de l'amour, Asherah, Astarté, Ishtar, Inanna, Vénus, Aphrodite. Donc, trouver l'eau, c'était servir l'eau, c'était apporter la vie à toute la tribu et c'était donc être au service aussi de la déesse de l'amour. Autre preuve, dans la tradition essénienne, Marie la mère, était la porteuse d'eau. C'est-à-dire que la Vierge Marie est connue dans la tradition essénienne comme la porteuse d'eau. Également, Marie-Madeleine, elle va rencontrer Jésus où? Jésus, près d'un puits, ce qui est hyper symbolique. Même si ce n'est pas vrai, peut-être littéralement, on ne sait pas. Au niveau du symbolisme, c'est quelque chose de très 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 fort. Comme d'être la porteuse d'eau d'ailleurs. La racine de Marie, Mar, a été attribuée par les scientifiques, les intellectuels, à mer. L'eau, encore une fois. En anglais, et là on passe véritablement à autre chose, je vous l'accorde, on a le mot mermaid. Et si on le traduit, ça donne les servants de la mer. Mer qui reste mer et maids qui est donc la servitude, servir. Donc on retrouve dans ce mot le fait d'être au service de la déesse des eaux, de la déesse de l'amour, du grand féminin divin. Mais c'est quoi ce mot mermaid? Pourquoi je vous en parle là maintenant? C'est parce que mermaid se traduit par sirène en français, une habitante de l'eau. Et des sirènes, on en retrouve dans l'architecture des églises et des cathédrales, dans les dessins mystiques des gnostiques, dont je vous parlais, et dans les mythes du nord et du sud, donc véritablement partout. Et ce qu'elles font, ce qu'elles sont connues pour faire, c'est chanter et attirer les hommes dans les profondeurs, au point de les noyer. Mais ce qu'elles chantent, ce n'est pas n'importe quoi, c'est pas... Une horreur qui fait peur aux hommes au point de se noyer. En fait, ce qu'elle chante, c'est la vérité et la sagesse de l'inconscient. Et les hommes ont toujours eu peur de répondre à l'appel de l'inconscient, à l'appel de leur âme, parce qu'ils ont peur de finir noyés par toutes ces vérités, par tous ces mystères de la vie et de la mort, par les mystères de l'amour, les mystères de la déesse. Cet inconscient insondable, cet inconscient qui faisait peur aux hommes de l'époque avant qu'on arrive à trouver scientifiquement à quoi correspondait l'inconscient, à mieux le définir, à mieux l'explorer, et à mieux pouvoir avoir foi et compter sur l'appel de l'âme. Voilà ce que sont les sirènes que l'on retrouve un petit peu partout. Ce sont les sages, les femmes sages qui appelaient les hommes, et elles étaient forcément belles parce qu'ils en tombaient amoureux, parce que c'est l'amour aussi qui nous conduit à la sagesse, qui nous conduit à aller plonger dans l'inconscient. Et parfois cet amour-là, cette déesse de l'amour, on en a peur, on a peur qu'elle nous perde dans les émotions ressenties, qu'elle nous perde dans les profondeurs. En français, on retrouve aussi un mot connecté à tout ce champ lexical des maris, qui est le mot marié, que l'on utilise donc pour l'union sacrée d'un homme et d'une femme, ce qui fait penser aussi forcément à l'union mystique du masculin sacré, du féminin sacré, c'est-à-dire l'union de l'esprit dans la matière. Alors, est-ce un hasard si tous ces termes sont tous connectés à l'eau et à l'amour? À la déesse, au féminin sacré et divin. C'est véritablement une question que je me suis posée. Est-ce que c'est possible que ce soit juste un hasard? Et pour finir, pour vous donner un petit peu le coup de grâce, eh bien Marie, en araméen, donc le langage de Jésus de l'époque, ça signifie le lit de pierre ancré qui étend la lumière du féminin. Alors avec tous ces petits éléments, peut-être qu'il y a que j'ai fait une sélection aussi également de ces éléments parce qu'ils étaient les plus représentatifs et qu'il y a d'autres choses qui dément peut-être tout ce que je dis. C'est vrai que quand on creuse aussi forcément d'une façon subjective. Donc face à tous ces éléments que je vous donne, il faut aussi garder son discernement et aller faire ses propres recherches. Mais de mon côté, face à ce que j'ai pu expérimenter dans l'art intuitif qui sort de moi parce que je viens là alors que je suis dans l'écriture et dans l'enregistrement de cette classe à créer une sirène, alors que je ne suis pas du tout attirée par ce genre de mythe qui est sorti comme ça lors d'une quête de vision, et bien c'est très fort et ça me persuade que je suis sur la bonne piste parce que c'est ce qui m'a amené à faire des recherches sur le mot mermaid et à voir maid, la servitude, alors que Marie c'est la servitude, la prêtrise c'est être à la dévotion de l'union de la lumière dans la terre, le lit de pierre ancré qui étend la lumière du féminin. Alors forcément je suis persuadée à mon niveau, comme d'autres aussi, hein, que Marie, eh ben, c'était pas un simple prénom qu'on donne comme ça à droite à gauche comme aujourd'hui. Marie, c'était un titre de femme au service de l'eau, de l'amour, de la déesse. Des femmes dévouées au féminin divin, donc, comment on les appelle ? Des prêtresses. Marie la Blanche et Marie la Rouge sont deux femmes différentes historiquement. Elles ont été présentées par l'Église comme étant totalement opposées. L'une pécheresse, l'autre miraculeuse, une qu'il fallait éviter, l'autre à qui il fallait ressembler. Et c'est cette division-là qui a été le plus nuisible à la femme finalement. Parce que ne dit-on pas diviser pour mieux régner ? Et c'est peut-être aussi une piste sur laquelle aller. Et qu'est-ce qui se passait si on arrivait à les unir en nous ? Si on arrêtait de nous dire qu'il fallait absolument les opposer et en choisir une des deux. De les unir. Expérimenter donc. Guérir pour mieux servir. Expérimenter et guérir le côté de Marie la Rouge, Marie-Madeleine, pour mieux servir comme Marie la Blanche. Et il en est de même finalement pour ce que représente la notion de chaman ou d'homme médecine dans les traditions de par le monde, à l'Est, à l'Ouest. Parce que chacun d'eux, même si le terme est différent, ils ont un terme tous commun. Ils sont appelés les guérisseurs blessés. Pour pouvoir guérir l'autre, ils ont été eux-mêmes blessés. Ils se sont guéris. Et être blessé, c'est expérimenter, c'est pécher, c'est faire des erreurs. Mais ensuite, on guérit tout ça. On avance, on comprend. On intègre le guérisseur blessé. Et avant même de vouloir chercher à nous réunir avec notre masculin, faire cette union sacrée, il est essentiel pour retrouver toute la puissance du féminin de réunir les morceaux du féminin, ces deux opposés, rouge et blanc. Donc de remélanger en nous le rouge et le blanc et de trouver le rose qui est la couleur de la créativité, notamment dans la tradition des 13 mères originelles. Magnifique. Ainsi, il n'est plus du tout surprenant à ce stade de cet audio, à ce stade de vos lectures, à ce stade dans cette classe, que la rose soit la fleur de l'être, de la personne, de l'individu qui est au service de l'amour, au service du féminin, dévoué au féminin. Elle est la fleur des prêtresses, de la sororité, de la rose. Et c'est pourquoi les roses nous aident aussi sur ce chemin de guérison des blessures. Tout comme les Maries, et en particulier Marie-Madeleine, comme vous allez pouvoir le voir dans le reste de cette page, de cette introduction. Je vous remercie d'avoir suivi cet audio et n'hésitez surtout pas à nous faire part de votre avis, de vos croyances sur les maris. C'est toujours très intéressant. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci encore de m'avoir écouté. À bientôt.